Bonjour et merci si vous nous rejoignez maintenant. Dans la grande table des idées aujourd'hui, comment apprendre plus et mieux? Réflexion ouverte par le ministre Jean-Michel Blanquer qui a fait du primaire la mère de toutes les batailles. Il y a 8 mois, il a mis en place un conseil des sages, conseil scientifique de l'éducation nationale avec à sa tête notre premier invité, Stanislas Dehaene, pionnier des neurosciences cognitives et professeur au Collège de France. Il revient aujourd'hui dans « Apprendre les talents du cerveau, le défi des machines » chez Odile Jacob, sur tout ce qui fait la force et les faiblesses de l'apprentissage actuel, sur le rôle de l'attention, l'importance du sommeil et le fonctionnement de la mémoire. Bonjour à vous Stanislas Dehaene.
Bonjour.
À vos côtés, le réalisateur Frédéric Castaigne pour Demain l'école, un documentaire en 2 volets, coproduit par Arte et Effervescence, diffusé prochainement sur Arte, et un livre d'ores et déjà publié chez François Bourin, un tour du monde des pratiques éducatives et un état des lieux des promesses des neurosciences. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. Quelles étaient, Stanislas Dehaene, vos idées reçues avant de commencer ces recherches, ce que vous avez découvert au fil du temps, en enquêtant, en cherchant?
Il y a eu énormément de transformations dans le domaine de la connaissance du cerveau du jeune enfant. Le cerveau du jeune enfant était essentiellement inaccessible jusqu'à récemment, et en fait avec mon épouse Ghislaine, on a été parmi les premiers, c'est son équipe vraiment, à mettre en œuvre les moyens d'imagerie cérébrale et aussi des moyens de sciences cognitives, donc de psychologie, comme beaucoup d'autres laboratoires dans le monde aussi, pour explorer ce que pensent les tout petits enfants. Et on s'est rendu compte que ce qu'on appelle l'état initial du jeune enfant est beaucoup plus riche qu'on ne le pense. Il y a à la fois des piliers de connaissances, des noyaux de connaissances pour les nombres, l'espace, le temps, le langage, et puis cet extraordinaire algorithme d'apprentissage qui lui-même, bien sûr, a une base génétique.
Vous parlez d'algorithme pour notre cerveau.
Oui, le cerveau est un dispositif de traitement de l'information. C'est comme ça qu'on le comprend aujourd'hui. Un dispositif biologique de traitement de l'information.
D'accord, mais vous ne me dites pas sur notre cerveau, vous, vraiment la découverte ces dernières années qui vous a bluffé.
Oh, il y en a tellement, vous savez, le livre est épais, hein, mais si je devais en retenir une qui est peut-être surprenante aussi, c'est le rôle du sommeil. Pas seulement comme réparateur, mais comme partie intégrante de l'algorithme d'apprentissage du cerveau. Dormir est indispensable à l'apprentissage.
Et pourtant, en 1958, le rôle du sommeil, on en parlait déjà, de l'importance pour les enfants de dormir pour bien récupérer, être plus attentif après en cours à l'école.
Chez les jeunes élèves, les classes d'après-midi, somnolentes ou dissipées, se sont toujours révélées moins productrices que celles du matin. Une expérience est en cours à l'instigation du docteur Max Forestier. La sieste a été promue au rang de discipline pédagogique. Grâce à un ingénieux système de lits collectifs pliants, la classe, dès la rentrée, se transforme en dortoir. Quelques minutes suffisent. Chaque après-midi, depuis 1 an, 38 fillettes de 5 à 8 ans consacrent l'heure qui suit le déjeuner au sommeil. Les rideaux sont tirés pour la pénombre et une musique douce est dispensée par un électrophone. Et cette heure perdue est en réalité une heure gagnée. Après la sieste, les élèves sont sages, décontractés. La santé des enfants est améliorée par ce régime qui rétablit l'équilibre perturbé par les conditions de la vie moderne.
Bon, bah, vous voyez, on n'avait pas besoin de l'imagerie cérébrale, il suffisait de regarder la télé pour savoir ça, que la sieste était réparatrice. Elle a même été promue au rang de discipline pédagogique, Stanislas.
Non, mais il y a une autre idée quand même, là, qui n'était pas connue en 1958, qui est que non seulement le sommeil est réparateur, mais en fait, il est actif. On savait à cette époque déjà qu'il y avait des ondes du sommeil, que le cerveau n'est pas du tout silencieux pendant le sommeil, mais on ne savait pas à quoi ça servait. Et c'est seulement récemment qu'on s'est rendu compte que le cerveau rejouait pendant la nuit les épisodes de la journée. On le voit littéralement dans les décharges des neurones qui reproduisent les mêmes séquences que dans la journée, et alors souvent 20 fois plus vite. Donc ça veut dire que le cerveau peut se répéter les choses qu'il a vécues pendant la journée, et l'impact sur l'apprentissage est aussi bien démontré lorsque vous vous réveillez après une phase de sommeil, qui peut être une sieste, comme c'est bien dit dans ce petit reportage, les apprentissages ont été consolidés, alors que vous n'avez rien fait. Alors, vous avez l'impression de n'avoir rien fait, mais votre cerveau, lui, n'a pas rien fait, il s'est répété les informations.
Voilà ce que vous appelez aussi une phase de consolidation, c'est-à-dire que vous avez observé que le cerveau reste toujours actif au repos, et qu'il se rejoue ce qui qui s'est passé pendant le reste de la journée et que c'est un temps aussi important et que les troubles de l'attention, après une période de sommeil, sieste ou nuit, sont quand même moins importants. Vous dites que ça les supprime pas totalement, mais ça en diminue.
Mais certains troubles de l'attention, c'est-à-dire qu'il y a une distinction à opérer. Il y a vraiment des enfants qui ont de vrais troubles de l'attention avec hyperactivité et qui bénéficient parfois d'un traitement pharmacologique. Mais il y a d'autres choses qu'on prend pour des troubles de l'attention et qui en réalité ne sont d'autres que des troubles du sommeil. Par exemple, des enfants qui font des apnées du sommeil, qui ont des difficultés respiratoires, on corrige ces difficultés et le sommeil est bien meilleur et les troubles de l'attention disparaissent.
Frédéric Castagnède, on voit devant votre caméra que ce n'est pas de tout repos pour les enfants aujourd'hui de tenter de booster leur capacité cognitive, de permettre à leur apprentissage de s'améliorer, pas simplement quantitativement, mais aussi qualitativement. Ils sont soumis à une série d'expérimentations. Vous avez fait, vous, un tour du monde de ces nouvelles pratiques pédagogiques innovantes, mais aussi vous êtes allé voir, notamment dans les laboratoires comme celui de Stanislas Dehaene, ce qui se fait et se joue aujourd'hui. Même question peut-être qu'avec Stanislas Dehaene, qu'est-ce qui vous a surpris? Quelle est vraiment la méthode aujourd'hui qu'on expérimente, qui vous a étonné?
Moi, j'ai trouvé que toutes ces découvertes autour des sciences du cerveau, des sciences cognitives et des neurosciences en particulier, sont vraiment fascinantes parce qu'on découvre pour la première fois depuis une vingtaine d'années, grâce au progrès de l'imagerie cérébrale, comment fonctionne le cerveau et qui est l'outil d'apprentissage non seulement des élèves, l'outil de travail des élèves, mais aussi des professeurs. Donc je trouve que toutes ces découvertes autour des grands principes de l'apprentissage et toute la première partie du film et du livre sont consacrées autour de ces découvertes des sciences cognitives. Je trouve ça absolument fascinant pour espérer aider les enfants justement à améliorer leurs apprentissages, aussi bien ce que Stanislas Dehaene appelle les grands mécanismes d'apprentissage comme l'attention, la correction d'erreurs, l'engagement actif, etc. Donc je trouve que c'est particulièrement enthousiasmant et l'idée c'était un peu ça, c'était d'avoir une approche non catastrophiste de l'école comme on peut avoir d'habitude et de voir ce qui marche aussi bien dans les laboratoires de recherche que dans les systèmes éducatifs à travers le monde. Donc on est allé aux quatre coins de la France avec les grandes équipes de chercheurs comme celle de Stanislas Dehaene, comme celle d'Olivier Houdet à la Sorbonne et puis après on est allé à l'étranger à Singapour parce que Singapour est entre guillemets le héros du modèle asiatique et aujourd'hui numéro un de la fameuse enquête PISA de l'OCDE. Et puis on est allé aussi en Finlande qui est un peu l'inverse avec un modèle radicalement différent mais qui fonctionne aussi très bien et on a essayé de voir un peu quelles étaient les recettes du succès tout en sachant qu'on ne peut jamais transposer intégralement des choses dans des systèmes éducatifs comme le nôtre mais on peut s'en inspirer pour faire avancer les choses.
Voilà, l'apprentissage au pas de charge puisque vous avez évoqué Singapour, on va y aller tout de suite. Singapour, où la stimulation du cerveau des enfants de moins de 6 ans fait l'objet de leçons quasi militaires. Electricity, electric field, oscillation, radiation, uncertainty. Columbia River, Yukon River, Snake River, Blood River, Yellowstone River, Rye Grande River, good check, good focus. À Singapour, les familles aisées font suivre des cours de soutien à leurs enfants dès la maternelle. Certains centres privés, d'un genre très particulier, mettent à profit l'argument de la plasticité cérébrale pour proposer des cours de stimulation et d'enrichissement du cerveau dès l'âge de 6 mois.
En une heure, nous faisons plus de 40 activités. Nous pensons que les enfants de moins de 6 ans sont comme des éponges et que c'est la meilleure période pour que ces enfants soient stimulés. Nous ciblons donc les enfants les plus jeunes.
Bon, fini 1958 et la sieste, vous parlez de défis, Stanislas Dehaene, c'est le sous-titre du livre « Les talents du cerveau, le défi des machines ». D'ailleurs, vous auriez pu titrer « Les défis du cerveau et le talent des machines ». Un mot de ce choix et on revient à Singapour et une précision que vous vouliez apporter.
Je pense qu'il y a un défi des machines parce qu'effectivement, elles commencent à s'approcher des performances de notre cerveau. Parfois, dans certains domaines précis, elles le dépassent. Mais ce que j'explique dans le livre, c'est que notre cerveau garde la dragée haute dans l'intelligence générique, la capacité d'apprendre quel que soit le domaine, on n'a pas encore réussi à imiter les performances de notre cerveau.
Voilà, il y a une concurrence des algorithmes, peut-être sur l'apprentissage, mais pas sur la réflexion.
Pas sur la réflexion et pas sur l'abstraction des connaissances. Les réseaux de neurones artificiels peuvent apprendre à réaliser des performances, comme avoir la bonne intuition du coup au jeu de Go, mais ils ne réfléchissent pas sur leur savoir, ils ne savent pas le généraliser comme le fait un très jeune enfant ou un scientifique. Les jeunes enfants fonctionnent comme des scientifiques qui formulent des hypothèses de point de vue d'une façon très explicite, linguistique, sous forme de formule mentale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra encore de nombreuses années avant qu'on parvienne à imiter, je pense, dans les machines. Ce n'est pas impossible, à mon sens, mais on n'y est pas encore arrivé. Et d'une certaine manière, j'ai aussi voulu que le livre parle aux chercheurs d'intelligence artificielle pour leur donner des idées sur ce qui manque, quelque part, dans leurs machines.
Pour leur donner à eux des idées.
Exactement.
Pas à l'école, par exemple.
Et donc moi, je m'exprime toujours d'un point de vue d'un chercheur. Dans le Conseil scientifique de l'éducation nationale, c'est très clair, on est des conseillers de l'éducation nationale, donc 21 chercheurs volontaires qui ont un certain savoir, des principes de fonctionnement du cerveau, de la psychologie. D'ailleurs, c'est plus de la psychologie, à mon sens, que des neurosciences, c'est-à-dire l'algorithme du cerveau. Mais ça ne se traduit pas directement, ça peut inspirer des pédagogies, ça ne donne pas directement la méthode parfaite pour appliquer à l'école.
Non, en revanche, il y a quand même des expériences qui sont d'ores et déjà faites, pas à travers ou pas initiées par ce conseil scientifique, mais par des laboratoires comme le vôtre.
Absolument.
En partenariat avec l'éducation nationale.
Oui, et puis les sciences cognitives offrent des méthodologies pour mettre à l'épreuve. Je pense que l'approche scientifique, c'est aussi de questionner, de se dire, est-ce qu'on sait ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher? Nous ne savons pas forcément, donc faisons des expérimentations. Et cette culture de l'expérimentation à l'éducation nationale me paraît très importante. À ce moment-là, les sciences cognitives interviennent avec des outils pour arriver à vérifier si les performances des enfants ont effectivement bougé. Très souvent, on trouve un maître enthousiaste qui applique, par exemple, la méthode de Singapour en France, et il a des performances qui semblent exceptionnelles. Mais la question, c'est, est-ce qu'on peut répliquer ça à grande échelle? Est-ce que vraiment tous les enfants peuvent en bénéficier? C'est là qu'il faut avoir une approche un petit peu rigoureuse et expérimentale.
Dites-moi qui est le maître enthousiaste qui veut s'inspirer de l'expérience de Singapour, que je sache dans quelle école il ne faut pas que j'envoie ma fille.
C'est le plus formidable que j'ai filmé. C'est à Saint-Denis, une enseignante qui s'appelle Jelica Darbo, qui a une classe qui suit des enfants depuis le CP. Donc on a filmé dans sa classe de CE2 et qui applique depuis 3 ans la méthode de Singapour. Et c'est une des séquences les plus touchantes qu'on a filmées, parce que tout d'un coup on a vu les enfants qui faisaient des mathématiques et non plus de l'arithmétique. Ils faisaient pas du calcul, mais ils parlaient mathématiques. Et tout d'un coup c'était un peu comme dans une place publique, ils se levaient, ils discutaient entre eux avec leurs copains, leurs voisins. Ils disaient non mais regarde, l'addition c'est une évolution, la multiplication c'est avec le plus, je vais te montrer le lien. Enfin ça parlait mathématiques et non plus arithmétique. Et la prof avait complètement investi ses élèves dans leur matière. Et tout d'un coup, on voyait que les mathématiques, qui parfois peuvent être très stressantes pour certains petits-enfants, pour eux ne l'étaient pas du tout. Et au contraire, ils prenaient plaisir à faire des mathématiques. Et j'ai trouvé ça particulièrement enthousiasmant. C'est vrai qu'on parle souvent beaucoup de la lecture et des difficultés d'apprentissage des enfants au niveau du CP pour automatiser les sons et les lettres. Mais il y a aussi cette question des mathématiques qui, passées les petites classes, devient de plus en plus stressante à mesure qu'on monte dans les classes. Et là, ce n'était pas du tout le cas.
C'est exactement ça. Il y a un potentiel dans le cerveau de tous les enfants. Ça fait partie de ce que nous héritons de notre patrimoine génétique. C'est le cerveau d'Homo sapiens est prédestiné, quel que soit le milieu, qu'on soit né à Saint-Denis ou qu'on soit né dans le 16e arrondissement, on est capable d'apprendre des mathématiques. Et je pense que souvent, on sous-estime et on n'enrichit pas assez l'environnement de l'enfant. On sous-estime la capacité des enfants à passer à l'abstraction de façon relativement précoce.
Mais vous comprenez que certaines de ces expériences effraient quand même ou ne donnent pas tout de suite envie. Qu'est-ce qu'il y a de séduisant dans toutes ces nouvelles pratiques, ces projets, ces innovations pour vous, Frédéric Castagnette? Quand on écoute par exemple votre caméra Céline Alvarez raconter l'expérience qu'elle a mise en place à Gennevilliers, c'est ça ?
C'était à Gennevilliers.
On peut se demander si on a envie d'aller voir son enfant, ne plus avoir des cours comme dans nos bonnes vieilles écoles, mais se retrouver à nettoyer des tables pour s'assurer qu'il n'y ait plus une seule goutte jusqu'au bout, faire le ménage de leur salle, préparer le café avec une telle rigueur presque militaire, une fois encore. C'est pas toutes les expériences comme ça.
C'est autre chose, c'est différent. Moi, j'ai constaté, tous les enseignants qu'on a rencontrés, on a vraiment tourné dans beaucoup de pays, en Finlande, à Singapour, aux États-Unis, beaucoup en France, aux quatre coins de la France. Tous les enseignants qu'on a rencontrés, qui sont des enseignants particulièrement investis et innovants, qui justement essaient de faire bouger les choses, sont pas du tout inquiets. Au contraire, ils sont en recherche, ils sont passionnés, ils sont complètement engagés. Les seules personnes que j'ai rencontrées qui étaient inquiètes, c'était peut-être des chercheurs en sciences de l'éducation, qui voient arriver une nouvelle discipline, que sont les sciences cognitives, influencer un peu les politiques éducatives publiques et qui ont peur de perdre de leur influence. Mais à part ça, tous les enseignants sont extrêmement demandeurs de cours, justement parce qu'on parle du cerveau, on parle de l'outil de travail de leurs élèves et qu'ils trouvent ça fascinant et que d'une certaine manière, beaucoup de découvertes des recherches en sciences cognitives viennent valider des choses qu'ils savaient de manière peut-être intuitive ou empirique ou pragmatique.
C'était l'exemple de la sieste.
Comme l'engagement actif, qui est une un des piliers de l'apprentissage, comme l'explique très bien Stanislas Dehaene. Beaucoup de professeurs pratiquent des pédagogies actives. En Finlande, ils le font à l'échelle du pays, à l'échelle nationale. Donc tout d'un coup, on change de dimension, et puis ça a une implication très concrète sur l'architecture de la classe. C'est-à-dire que tout d'un coup, on passe de cette architecture avec des rangées de tables face aux professeurs, et on passe du face à face au côte à côte, avec des classes qui sont organisées en îlots, des carrés de tables, et où tout d'un coup, les enfants sont complètement investis, engagés dans leur apprentissage et coopèrent. Et ça change complètement leur rapport à l'enseignement.
Alors, est-ce que les neurosciences, pour vous, Stanislas Dehaene, annoncent d'une certaine manière la mort du pédagogisme et l'ouverture d'une nouvelle ère ? Nous n'avons jamais appris à apprendre. C'est pas totalement vrai. On apprenait peut-être mal auparavant, mais intuitivement et empiriquement, on a quand même appris des choses. La preuve en est, on est aussi tous là autour de cette table. C'est Jean Piaget que vous mettez en exergue de votre ouvrage, partisan d'une pédagogie moderne, qui ne dit pas autre chose.
Oui, et il dit effectivement que nous devons essayer de découvrir les principes de fonctionnement pour effectivement mieux apprendre à apprendre. Non, on a tous appris de façon intuitive. Beaucoup d'expériences montrent que on ne comprend pas forcément les règles de fonctionnement de notre propre cerveau. Je cite dans le livre, par exemple, une expérience célèbre de Henri Rödiger, qui a été publiée dans Science, qui montre que les étudiants spontanément passent trop de temps à étudier et pas assez de temps à se tester. Et si on leur demande, ils pensent que c'est la bonne méthode, stabiloter le livre pendant 2 heures en révisant le manuel. Et en réalité, ce n'est pas la méthode optimale. Mais tout le monde se trompe, les étudiants comme les enseignants, sur ce qui va marcher le mieux.
Il faudrait presque tous les quarts d'heure lever son nez du livre, voir si on a ce qu'on a retenu et si on a les bonnes réponses. C'est ça, se tester. Avant de se replonger dans cet exercice de mémorisation.
Exactement, en fait. Se tester et avoir un retour sur erreur. Ça veut dire avoir un dispositif, ça peut être un ordinateur, ça peut être des petites fiches, ça peut être l'enseignant et qui vous dit non, attention, là tu te trompes.
Alors ça, c'est passionnant.
Immédiatement.
Cette question de l'erreur dans une société comme la nôtre, ici en France, qui n'accepte pas l'échec, vous nous dites l'erreur est fondamentale, ça fait partie de ces 4 piliers de l'apprentissage, apprendre à reconnaître ses erreurs.
D'abord, c'est comme ça que fonctionnent toutes les machines artificielles d'apprentissage, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. On est en train de découvrir d'ailleurs que la plupart des messages que s'échange le cerveau sont des messages d'erreur. Lorsqu'il n'y a pas d'erreur, lorsque tout est prédit convenablement, le cerveau a beaucoup moins d'activité. Mais par contre, dès qu'il détecte qu'il y a une anomalie, quelque chose qui n'était pas prédit, c'est la soustraction entre ce qui était prédit et ce qui a été observé qui se propage dans tout le cerveau et qui va mettre à jour toutes ces représentations mentales. L'erreur est absolument fondamentale, même si on ne se trompe pas littéralement, dans un sens, supposer qu'il y ait 2 réponses possibles, vous avez une chance sur 2 de vous tromper ou de ne pas vous tromper, mais comme vous étiez incertain, votre cerveau utilise cette information sur l'incertitude pour mettre à jour ses représentations mentales. Donc laissons les enfants se tromper, on le sait tous. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses là qui sont du bon sens. Parfois, par exemple, du bon sens pour les enseignants en musique. Les profs de musique savent très bien qu'on ne va pas exiger d'un enfant qu'il fasse le morceau de Mozart parfait du premier coup. Et ils vont dire à l'enfant, tu vas voir, fais-moi confiance, pratique ton piano tous les jours, 15 minutes par jour, et tu vas progresser. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc il y a une sorte de décomplexion. On n'a pas besoin de stresser les enfants. Et au contraire, je cite beaucoup de travaux aussi qui montrent que chez l'animal comme chez l'homme, le stress est un inhibiteur de l'apprentissage. De ce point de vue-là, la méthode de Singapour paraît un petit peu étonnante dans la mesure où elle a l'air de rajouter énormément de stress aux enfants.
Il dédramatise parce qu'il parle du concret. Un des principes de base de cette méthode de Singapour, c'est justement d'avoir ce glissement progressif du concret à l'abstrait et de ne jamais aborder un concept abstrait de mathématiques sans l'avoir au préalable représenté de manière à ce que l'élève puisse visualiser mentalement le concept. Donc il commence avec, dans les petites classes, des petits bâtonnets en bois, etc.
On le sait depuis longtemps.
Donc, ça
dramatise. Dit dans la bosse d'Emma il y a longtemps. Et effectivement, les petits-enfants démarrent avec des représentations concrètes. Ils ont cette capacité, même très petits. Maintenant, on sait, des expériences vraiment chez des enfants de quelques jours de vie, juste après la naissance, ils ont déjà cette capacité de représenter les collections d'objets et d'en extraire quelques règles de l'arithmétique. Donc ça, effectivement, ça me paraît très favorable. Mais c'est l'aspect émotionnel, stressant ou extrêmement intensif qui est peut-être un peu abusif.
Il y a la question des notes aussi. Si on parle parle du stress, par exemple, on a filmé en Finlande, il n'y a pas de notes avant l'âge de 12 ans. Il y a des auto-évaluations, il y a des évaluations, etc. Mais justement, pour lutter contre ce stress, pour dédramatiser, pour dire aux enfants, vous avez le droit de faire des erreurs, et au contraire, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà, il n'y a pas ce système de notation, de classement des élèves les uns par rapport aux autres qui stressent les enfants, et particulièrement en primaire. Alors, je sais qu'en France aussi, les notes maintenant sont de plus en plus tardives suivant les classes, mais ça fait partie des éléments importants des enseignants.
Pour le coup, je pense qu'on ne peut être que d'accord. Le retour sur erreur dont je parle n'est pas du tout la note. Et j'essaye d'expliquer ça clairement. Une note ne constitue pas un bon retour d'erreur.
Stanislas Dehaene, en discussion avec Frédéric Castagnet. Singapour, ils sont bien classés côté PISA, au classement PISA.
Ouais, ils sont numéro un dans toutes les matières. Sciences, maths, lecture.
Et créativité.
C'est l'envers de la médaille, c'est-à-dire que ils sont numéro un, mais ils ont aussi le double de journées de classe, c'est-à-dire qu'ils commencent l'école à 7h30 jusqu'à 13h30, et ensuite il y a les fameux cours de soutien. Il y a un examen de fin de primaire qui s'appelle le PSLE, qui d'une certaine manière détermine tout leur avenir, parce que c'est cet examen qui va déterminer s'ils vont pouvoir rentrer dans les écoles secondaires d'élite du pays. Et donc à Singapour, 80% des enfants de primaire suivent des cours de soutien, ce qui est assez surréaliste. Donc on peut pas transposer. C'est un autre modèle, c'est une culture asiatique, confucéenne, qui est un pays aussi dans un contexte historique et culturel particulier, indépendant depuis 65 et qui s'est construit un peu contre...
Voilà, alors on aura moins de matheux, moins d'informaticiens, mais peut-être plus d'artistes, Stanislas Dehaene.
Moi, je voudrais dire
ici, en n'appliquant pas ces méthodes.
Moi, je suis pas sûr que ce soit le modèle que nous souhaitions. Je pense que si on réfléchit aux objectifs de l'école, l'objectif, c'est l'épanouissement de l'enfant. Ça n'est pas nécessairement la performance, et certainement pas la performance dans tous les domaines. Il y a une valeur fondamentale que les scientifiques connaissent bien, c'est la diversité. Darwin nous a expliqué à quel point la diversité était importante, et je crois que c'est la même chose à l'école. Donc ça ne veut pas dire que tous les enfants sont sur un seul axe et doivent tous avoir des performances parfaites dans tous les domaines, mais ça veut dire qu'on respecte leurs souhaits, leurs besoins, leurs envies. Et l'épanouissement, ça veut dire aussi qu'on leur donne les moyens de réaliser leurs envies. Donc on ne dit pas à un enfant « tu vas pouvoir faire des tableaux formidables » sans lui donner un apprentissage explicite du dessin. On ne lui dit pas « tu vas pouvoir jouer de la musique » sans lui enseigner l'instrument. C'est là que je trouve, je rejoins l'idée de performance, mais uniquement dans cette perspective d'épanouissement de l'enfant.
Voilà, donc 13 recommandations pour l'épanouissement de l'enfant. Voilà ce que vous établissez aussi dans ce livre, Stanislas Dehaene, « Apprendre les talents du cerveau, le défi des machines » qui paraît chez Odile Jacob. Et ces quatre piliers de l'apprentissage, on a évoqué la consolidation à travers le sommeil, on a évoqué le retour sur erreur, apprendre de ses erreurs, un peu aussi l'engagement et la participation, moins l'attention que vous avez exploré notamment, Frédéric Castagnet, dans votre documentaire « Le premier volet », en vous rendant attention en Oregon, peut-être que c'était logique. Et là, beaucoup de recherches sont faites sur cette question-là, avec ce test hyper compliqué du gorille. Vous pouvez peut-être juste nous le raconter.
Le test du gorille invisible. Classique.
Moi,
de
j'ai tout loupé. Oui. J'étais très vexée.
Vous n'avez pas vu le gorille?
Non, je l'ai absolument pas vu. Et j'ai pas vu la joueuse qui sortait non plus.
Ça veut dire que vous avez de bonnes capacités attentionnelles et que vous avez fixé votre attention sur ce qu'il fallait fixer. Mais effectivement,
non, je vous dirais pas que je suis pas non plus arrivé au bon chiffre de balles.
Ce laboratoire de l'Université d'Oregon est très en pointe dans cette étude des mécanismes attentionnels. Et d'ailleurs, j'ai découvert récemment que Stanislas Dehaene avait fait son postdoc à l'Université d'Oregon. Donc c'est un endroit qu'il connaît bien.
92 et 94, on était là-bas aux côtés de Mike Posner, qui est un des grands spécialistes de l'attention. Les auditeurs doivent demander un petit peu de quoi on parle là, mais il s'agit de ce fait que haut niveau, dans notre cerveau, il y a un goulot d'étranglement, un système qui a une capacité limitée, qui ne peut pas faire deux choses en même temps. Et donc, lorsque vous vous concentrez sur une tâche, eh bien, vous pouvez tout à fait être aveugle à d'autres informations qui sont pourtant sous vos yeux. En l'occurrence, il y a un type déguisé en gorille qui passe dans le film, on peut le dire maintenant, je crois que beaucoup de gens connaissent ce film. La première fois, on ne le voit pas, parce qu'on est concentré sur tout à fait autre chose. Et c'est une métaphore de ce qui se passe très souvent dans la classe, c'est-à-dire que l'élève dit « je ne vois pas ». Spontanément d'ailleurs, il peut très bien avoir toute l'information sous les yeux, alors l'enseignant va s'énerver, ou le parent dire « mais comment tu ne vois pas, tu as tout là ?» Mais non, il y a un certain nombre de situations, chez l'adulte également, où on, de toute bonne foi, on ne voit pas l'information. Et c'est le rôle de l'enseignant, je dis toujours, d'être le meilleur guide de l'attention de ses élèves. D'autant plus que chez l'homme, l'attention joue un rôle social, on partage l'attention. Donc ce à quoi l'enseignant fait attention, ou le parent fait attention, l'enfant va aussi y prêter attention. L'enfant suit l'attention de l'adulte. Donc, un rôle essentiel de l'enseignant consiste à canaliser l'attention de l'enfant vers le bon niveau.
Nos invités, Stanislas Dehaene, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France, auteur de « Apprendre » chez Odile Jacob, et Frédéric Castagnède, auteur de « Demain l'école » aux éditions François Bourin. Une enquête sur plus de 2 ans qui a aussi donné lieu à un documentaire en 2 volets qui sera diffusé très prochainement sur Arte. France Culture, il est 13h21.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Sommes-nous tous égaux devant l'apprentissage? C'est une question qu'on peut se poser à l'écoute de cet exemple finlandais que vous avez déjà cité à 2 reprises, Frédéric Castagnède, la Finlande qui privilégie l'équité. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cela se traduit, surtout pratiquement? Extrait de Demain l'école.
En Finlande, une des bases fondamentales de l'éducation a été non pas tant l'égalité dans l'enseignement, mais plutôt l'équité. En France, bien sûr, il y a aussi cette idée d'égalité, qui est une des valeurs fondamentales de la société, mais qui se traduit d'une manière différente dans l'éducation. Souvent, on pense qu'égalité veut dire que tous les élèves peuvent recevoir une bonne éducation. Mais par principe, la même pour tous. En Finlande, nous pensons depuis longtemps, depuis les années 70, depuis 40 ans, que la condition de la réussite des enfants à l'école est qu'on traite chacun de manière différente. Et nous parlons d'une discrimination positive.
La pédagogie des points forts est une découverte importante aujourd'hui. Si nous notons par exemple de la persévérance, du courage, alors on se sert de ces qualités. Ici, nous avons des élèves qui jouent au foot. On leur dit, quel est le point fort que tu utilises pour cette activité? Est-ce que tu peux transférer ce point fort, par exemple, aux mathématiques, d'une manière ou d'une autre?
Quelles sont ces inégalités que l'on cherche à corriger? Est-ce que c'est des inégalités innées, biologiques, celles de nos cerveaux, ou est-ce que ce sont des inégalités avant tout sociales et des égalités, inégalités de chance devant l'apprentissage, Stanislas Dehaene?
Il y a bien sûr les deux. Il y a une part d'inné. Par exemple, la dyslexie est en grande partie d'origine génétique. Donc si vous êtes dyslexique, il y a de bonnes chances que votre frère, à peu près 50% de chances que votre frère ou votre sœur soit aussi dyslexique ou ait des difficultés dans ce domaine. Et puis, bien sûr, il y a une part très importante de l'environnement social. On sait, par exemple, que les enfants qui rentrent en maternelle peuvent avoir des différences d'un facteur 10 dans le nombre de mots qu'ils ont entendus dans leur environnement. Donc, l'exposition au langage, simplement parce que certains parents ne pensent pas suffisamment à parler à leurs enfants, crée d'importantes différences très vite, avant même l'entrée à l'école. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de discrimination positive. Ça veut dire s'adapter aux besoins de chaque enfant. Tous les enfants ont le même cerveau, mais ils n'ont pas eu tous la même expérience, ils n'ont pas tous les mêmes goûts et ils n'apprennent pas tous à la même vitesse.
Mais l'école ne peut pas faire du cas par cas.
Bien sûr, l'école peut s'adapter aux besoins de l'enfant, d'autant plus qu'on travaille maintenant avec des plus petites classes, notamment dans les réseaux d'éducation prioritaire. Hein. Et vous savez, on a aidé au Conseil scientifique de l'éducation nationale, on a aidé l'éducation nationale à revoir ses tests, ses évaluations qu'on appelle les repères de début de CP. L'idée, c'est exactement celle qu'on entend dans le reportage, c'est qu'on puisse dire chaque enfant quels sont ses acquis et puis quels sont ses besoins. Et que l'enseignant, quand il démarre son année, est un portrait de sa classe, une photo très détaillée, pas du tout pour classer les enfants, mais pour dire celui-là a des besoins particuliers et je vais y faire attention. Voilà. Donc cette approche qui différencie en fonction des besoins et des goûts de chaque enfant me paraît très bonne. Ça ne veut pas dire que chaque enfant a un style d'apprentissage différent, c'est pas du tout ça, hein. Ça c'est un mythe. Nous apprenons avec des moyens similaires, mais nous ne sommes pas tous au même niveau. Nous n'avons pas tous atteint le même point dans cette progression pédagogique qui est multidimensionnelle. Et donc, l'enseignant doit être alerté. Moi, je dis toujours que l'enseignant doit être comme une sorte de Sherlock Holmes. Et avec des sciences cognitives, on peut l'aider à devenir une sorte de Sherlock Holmes qui connaît un petit peu l'architecture du système cognitif de l'enfant et qui essaie de deviner pour cet enfant-là où est-ce que ça bloque, exactement à quel point il n'a pas compris.
Frédéric Castagnette, cette question des inégalités sociales en France, dans les expériences que vous nous montrez dans votre documentaire, beaucoup se situent en zone d'éducation prioritaire, qui sont des écoles ou des quartiers privilégiés pour ces nouvelles politiques éducatives, ces expériences en tout cas en Oregon, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, là encore, ce qui est souligné dans cette observation des cerveaux de nos enfants, c'est aussi l'effet que peut avoir l'environnement sur l'autorégulation du cerveau, ce stress qui peut être créé et l'inégalité finalement des enfants face à ce développement-là et cet apprentissage.
Oui, oui, cette question de l'équité, c'était vraiment un des principaux points de départ de l'envie de faire ce film et ce livre. C'était notamment révélé dans l'enquête PISA qui montre que la France et les résultats sont pas catastrophiques. On est 27e sur 72, donc on est bien au-dessus de la moyenne. Mais surtout, le rapport constate qu'on est un des pays où le milieu socio-économique influence le plus, pèse le plus sur les résultats scolaires des enfants. Donc un des principaux problèmes, c'est ça. Et c'est vrai que la Finlande, là vous avez cité un extrait d'interview avec Pasi Salberg, qui est un des grands architectes des réformes en Finlande, a mis au centre de son système éducatif ce concept d'équité, de discrimination positive, qui passe parfois par, même très souvent, par deux enseignants dans la classe, par ne pas vouloir à tout prix faire tout le programme, parce qu'il faut faire tout le programme, mais ralentir le programme si certains enfants n'y arrivent pas. Donc c'est une volonté de faire progresser tous les enfants et de ne laisser personne au bord de la route. Et après, il y a effectivement des programmes de recherche comme à l'Université de l'Oregon où on a filmé, où ils ont constaté avec ces méthodes d'électroencéphalographie que les enfants issus de milieux défavorisés ont des capacités d'attention inférieures à la moyenne, parce que ils évoluent, ils grandissent dans des milieux pas toxiques, mais plus stressants que d'autres. Donc ils ont énormément d'éléments stimulateurs. Donc les enfants ont des capacités attentionnelles un petit peu inférieure à la moyenne, et donc ils ont mis en place tout un programme avec des exercices pratiques très simples à faire soit dans la classe, soit à la maison, des exercices de respiration, des exercices classiques, par exemple l'exercice de la ligne qui avait été inventé par Maria Montessori, enfin toute une série de petits exercices concrets pour développer l'attention des enfants, et ça marche. Ils ont réussi en quelques mois, en un an, à permettre aux enfants issus de ces milieux un peu moins privilégiés à avoir les mêmes capacités attentionnelles que la moyenne.
Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, trouble de l'attention, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est la difficulté toujours de l'école à comprendre ceux qui sortent un peu de la norme. Et vous nous le dites, les neurosciences cognitives aujourd'hui, Stanislas Dehaene, peuvent aussi aider à comprendre un peu ces différences, nourrir aussi les enseignants et, tout en sauvegardant leur liberté pédagogique, les aider à mieux comprendre comment fonctionne le cerveau des enfants qu'ils ont face à eux. C'est pas pour vous un nouveau carcan, ce sont des méthodes qui viennent en appui des projets éducatifs. Elles ne veulent en aucun cas se substituer, écrivez-vous, au savoir-faire des enseignants, et ça, vous insistez beaucoup là-dessus. Il nous reste une minute, Stanislas Dehaene, une photographie de ce que sera l'école du futur, d'après vous, telle que vous la rêvez.
Une école dans laquelle, effectivement, les enseignants d'abord sont formés, connaissent bien ces grands principes de l'apprentissage, et soit par la formation continue, soit par la formation initiale, et puis une école dans laquelle chaque enfant se sente bien, avec ses talents bien identifiés, ses goûts connus de l'enseignant et ses besoins, et une école dans laquelle on n'hésite pas à avoir des moments dans lesquels les enfants ont des moments pour eux, peut-être en fond de classe, ils ont une tablette, pourquoi pas, avec des logiciels pédagogiques, ou bien, comme chez Montessori, des choix d'activités qui leur font envie, qui les poussent plus loin, qui sont des objets mathématiques, par exemple, qui stimulent leur imagination, et une école qui ne sous-estime pas les enfants, qui continue de les stimuler.
Ça, c'est pas le cas de l'école d'aujourd'hui?
Je pense que les programmes pourraient aller plus loin, mais bien sûr, il faut assurer les bases aussi, mais il faut respecter les enfants dans toute leur diversité, aussi bien ceux qui sont avancés et brillants que ceux qui ont besoin de soutien supplémentaire.
Merci beaucoup, Stanislas Dehaene. Votre livre vient de paraître chez Odile Jacob. Merci Frédéric Castagnette. Demain, l'école en film sur Arte. Ce sera les 15 et 22 septembre, avec un DVD qui sortira deux jours avant, le 20 septembre. Et en livre, c'est chez Arte et François Bourin, édition depuis la fin août. Merci pour ces récits et ces explications que vous nous avez données l'un et l'autre, d'avoir en tout cas accepté cette discussion. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à la réalisation aujourd'hui, Perry Legras, avec Clément Daté.